Dicky, ça fait quand même quelques jours que ça fait beaucoup parler la situation du Canadien de Montréal, la série de défaites et tout ça. Abstraction du match d'hier soir, oui. Parce qu'une victoire quand même du Canadien méritée. C'est pas une situation qui est facile pour une organisation de hockey. On le voit, là, les commentaires ici à la station qu'on reçoit, ça génère des discussions beaucoup. Il y a aussi sur les médias sociaux maintenant, c'est une nouvelle dimension.
Absolument, absolument. Les gens sont très, très, très critiques. Également, on peut se poser des questions. Hein. Est-ce qu'on revient un peu à ce que le Canadien a peut-être pu connaître dans les années 2000, début 2000, avec un Centre Bell qui n'était pas nécessairement garni? Pour parler de ça, on a un spécialiste du marketing avec nous, M. Ray Lalonde. M. Lalonde, bonjour.
Bon matin, messieurs.
M. Lalonde, premièrement, j'ai été surpris la semaine dernière de voir le Canadien mettre des forfaits de billets sur un site spécialisé en forfaits, le Twango, pour ne pas le nommer. Est-ce que ça vous a surpris, vous?
Non. Ça fait quand même 4-5 ans que les Canadiens, je ne vais pas appeler ça, éprouvent des difficultés à vendre des billets, mais n'arrivent pas à être complets de match en match. Puis ça, c'est la vraie réalité. Ça s'applique pas juste aux Canadiens. Les équipes sportives peinent à y arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choix, puis de distractions, puis d'autres alternatives possibles pour suivre le sport. Puis, tu sais, tous les matchs sont à la télé, sur les écrans, sur le stream vidéo, multiples matchs à tous les soirs. Il y a beaucoup de choix. Puis il y a beaucoup d'autres sports aussi, proches des Canadiens et des Québécois. Donc, ça fait en sorte que se déplacer, payer ce prix-là pour une expérience moyenne, ben là, soudainement, il y a moins de tentations. Puis là, ce que ça fait, c'est qu'il y a des billets disponibles de match en match, de jour en jour. Et là, on les retrouve sur des sites, mais ça fait longtemps que les Canadiens mettent des billets un peu partout, en promotion, en rabais, pour essayer de vendre le reste des billets à tous les matchs. Puis honnêtement, à part d'un Toronto ou d'un Boston, c'est dur d'être complet au Centre Bell.
Et pourtant, de l'œil extérieur du partisan, on entend dire que c'est tout le temps plein au Centre Bell. D'une région comme la nôtre, de se dire ben, ça va être difficile d'avoir des billets pour aller aux Canadiens. C'est une perception qu'ils ont réussi quand même à conserver, malgré le fait que les billets sont moins faciles à vendre. À quel moment, pour une organisation, ça devient plus inquiétant, disons, de voir que les billets se vendent moins bien?
Ben, tu sais, c'est un bon point que tu apportes, mais moi, je pense pas qu'on leur rend une critique là en disant qu'il y a des billets à vendre. Au contraire, je pense qu'on leur fait une faveur. Parce que je suis pas sûr non plus que les clubs veulent perpétuer l'idée qu'ils sont complets. À moins que ce soit que quelques billets, là. Puis là, tu te dis, ben les gens vont se garrocher parce qu'ils vont se dépêcher à aller les acheter, il en reste que quelques-uns. Mais là, je te le dis en connaissance de cause, là, tu peux avoir entre 500 puis 900 billets disponibles quelques jours avant un match pour n'importe quel match. Donc, les Canadiens auraient avantage à publiciser le fait qu'il y a des billets à vendre plutôt que de penser à dire aux gens « ben hey, c'est complet au Centre Bell, vous ne pouvez pas y aller ». Au contraire, d'ailleurs, il y avait des billets hier à 18 $ sur StubHub dans une section en haut du Centre Bell. Là, c'est sûr que c'est une liquidation, c'est un marché secondaire. Mais quand les gens veulent acheter des billets pour les Canadiens, il y en a à toutes les sources, sans exception. Et dans certains matchs, ça coûte plus cher. Mais il y en a toujours des billets à vendre.
Vous venez de parler de StubHub, M. Lalonde, des sites de revente, autrement dit. Moi, j'entends souvent des légendes urbaines, puis je ne parle pas nécessairement du cas du Canadien, mais que souvent, c'est l'organisation elle-même qui va aller déposer les billets là-dessus. Est-ce que c'est vrai, ça, ou c'est complètement faux?
C'est vrai. C'est vrai. Ah, puis oui. Les Canadiens le font, puis les autres organisations le font aussi. Les Canadiens ont une façon de vendre, ça s'appelle la voûte des Canadiens. Ça, c'est comme un peu un système secondaire interne qui sert aussi pour les détenteurs de billets de saison qui ne veulent pas aller à un match, puis qui veulent les revendre, et finalement, le club les vend deux fois. Ils ont vendu une fois à l'acheteur, au détenteur, puis là, ils revendent une deuxième fois à un autre acheteur, puis ils tirent un profit de ça, puis ils remettent une somme d'argent au détenteur de billets qui est propriétaire, si on veut. Mais distribuer des billets dans des sites secondaires, authentiques, légitimes et publics, ça se fait depuis déjà 3-4 ans pour plusieurs équipes dans le sport professionnel.
Et dans le fond, le Canadien n'est pas devenu à un stade depuis quelques années. Parce que moi, je suis un fan de football américain. Et quand l'équipe ne gagne pas, à l'exception de quelques marchés, puis encore, quand l'équipe ne gagne pas, il n'y a pas beaucoup de monde dans le stade, les billets sont moins chers. Là, le Canadien est rendu à cette croisée des chemins-là aussi. Tu ne gagnes plus, ben on y va plus.
Oui, il y a un peu de ça, tu as raison. Tu sais, dans le sport américain, il y a des équipes de baseball. Tu les connais, là, les Marlins, entre autres, tu sais. Les Rays de Tampa Bay, on parle souvent des Rays et des Expos un jour. Ces équipes-là ont 10-12 000 personnes en moyenne au stade. Donc, forcément, ils ont de la difficulté. Dans la NFL, t'as les Jaguars de Jacksonville, t'as des équipes comme ça, les Texans, t'as des clubs dépendants de la séquence, puis comment ils vont, qui vendent pas tous leurs billets. T'en as d'autres comme les Packers, c'est comme une religion, puis t'as 70 000 personnes sur une liste d'attente pour avoir des billets au Lambeau Field. Ça, il y a de ça aussi. Fait qu'il y a vraiment de tout. Mais dans la NBA, il y a des matchs qui sont pas complets. Être à guichet fermé aujourd'hui, puis c'est pas une critique envers les Canadiens, au contraire, là, c'est pas facile de vendre 20 000, 21 000 billets tous les soirs pendant 41 matchs. Parce que la génération de consommateurs d'aujourd'hui est pas la même. Puis il y a moins de rareté. Puis la valeur est comme un peu diminuée. Mais pourtant, le prix monte. Mais l'expérience est pas aussi bonne. Les équipes, des fois, oublient que l'expérience d'un partisan, c'est il veut juste aller, elle ou lui, se divertir, se déconnecter de la réalité, puis aller vivre un moment de fun là, dans un stade sportif. Puis c'est le fun quand on gagne, mais on veut surtout avoir une bonne expérience pour se dire on revient. Mais si tu n'offres pas ça, ben là, les gens trouvent d'autres façons. Puis ils vont suivre le club pareil. Ils sont fans pareil des Canadiens, mais ils le sont à distance.
Il y a quelques années, justement, le Canadien, on disait que c'était vraiment, vraiment une expérience qui était plaisante. Maintenant, il y a d'autres équipes qui sont arrivées dans la Ligue. On a vu ce qu'ils font à Vegas, exemple. Il y a des puristes qui disent, écoute, c'est plus une game de hockey, mais force est d'admettre que selon vos propos, ça fonctionne ce qu'ils font.
Oui, bien, tu sais, je veux pas non plus m'éloigner du fait que gagner puis avoir une équipe aspirante, puis avoir un joueur étoile ou n'avoir deux, puis être en lice, ça, c'est sûr que c'est des facteurs très importants. Faut pas penser que c'est secondaire. Non. Mais ça fait partie d'un mélange d'ingrédients dans une grande recette. Puis dans les autres ingrédients, là, il y a ton expérience au centre. T'as l'accueil, t'as la musique, t'as l'électronique, t'as la technologie, t'as l'interaction avec le partisan, puis t'as toutes les expériences qui te font vivre des émotions uniques. Je vais te donner deux exemples. T'as parlé des équipes nouvelles, bien, les Golden Knights, bien sûr. On a vu ce qu'ils ont été capables de créer dans un marché où le hockey est loin d'être... mettons, cultivé puis cimenté dans la communauté. Mais je te parlerai juste des Raptors de Toronto au printemps dernier, quand ils ont fait une poussée en série. Là, je suis allé voir un match de la finale. Wow. Je te le dis, là, puis ça fait 34 ans que je suis dans le sport professionnel. J'ai rarement vu une expérience d'avant-match comme celle que les Raptors ont offert avec la présentation des joueurs. Puis le petit 2-3 minutes là, qui était là, c'était comme Vegas, c'était comme les Bulls de Chicago dans les années de Michael Jordan. C'était comme les Canadiens dans les années 2000, au début, lorsqu'on célébrait chaque occasion comme un événement unique. Les équipes peuvent pas trop perdre ça de vue parce qu'ils vont royalement réaliser que les gens... le match ne suffit plus seulement. Il faut y avoir plusieurs raisons.
Mais maintenant, au niveau des revenus, est-ce que c'est si important que ça d'avoir du monde en cabane ou avec les ententes de télé, tout le monde est bien heureux, partage des revenus?
Ben, dans la Ligue nationale de hockey, là, les ventes de billets puis de loges, c'est la source principale de revenus.
OK.
C'est pas ça dans la NFL. C'est pas ça dans la NBA, puis c'est pas ça au baseball. Mais dans le hockey, là, c'est l'équivalent d'à peu près entre 60 et 70 % de tes revenus si tu es capable de maximiser ça. Donc, c'est primordial de vendre tous les billets. C'est comme un avion qui part de Montréal à aller à Los Angeles. Puis au lieu d'avoir 150 personnes dans l'avion, là, il y en a 102. Ça veut dire qu'il y a 48 sièges vides inoccupés. Mais pourtant, là, prendre le vol, le fuel que ça coûte, le staff, qui sont les pilotes, et ainsi de suite, ça coûte le même prix, ça. Fait que finalement, t'as laissé 48 sièges inoccupés parce que, ben, t'as pas été capable de les vendre. Pour toutes sortes de raisons, là. Billets trop chers, mauvaise journée, mauvaise condition, peu importe. À la fin, là, une équipe de hockey a besoin de tous ses billets de tout vendre, ses billets. Parce que ce sont des revenus très importants. Mais pour la NFL, tu pourrais jouer une saison complète sans spectateurs dans les gradins et tu serais ultra riche quand même parce que c'est des revenus beaucoup moins importants dans l'équation.
Monsieur Lalonde, dernière question. Dans les années 70-80, les columnistes de Montréal, les Régent Tremblay et compagnie, avaient beaucoup d'influence sur ce que l'organisation faisait. Maintenant, bon, je n'ai pas cette impression-là du point de vue journalistique, mais est-ce que les médias sociaux, quand le Canadien traverse une crise comme tout récemment, là, que les gens demandent des têtes, là, Claude Julien dehors, Marc Bergevin dehors, on veut Patrick Roy, est-ce que les médias sociaux ont une influence qui se rend jusqu'aux oreilles de Jeff Molson?
Oui, oui. C'est sûr que plus tu as de voix des plateaux de communication, plus les équipes sont attentives. On est dans un univers de communication où les équipes elles-mêmes s'en servent là, pour promouvoir leurs produits et leurs messages. Finalement, les sites internes des équipes, Twitter, Instagram et Snapchat, Facebook et tout le reste, ben ça sert de canal de communication pour un message contrôlé. Ben à l'inverse, on engage les partisans, les consommateurs, les occasionnels, les temps partiels, puis les médias, de communiquer avec le club, à propos du club tout le temps. Fait que quand on parle de toi, c'est toujours bon. Si on en parle constamment négativement, il va y avoir des effets à ça. Mais finalement, on veut tous être un peu dans l'actualité. Fait que les clubs sportifs, dans leurs efforts de modernisation, savent très bien que les médias sociaux, ça a deux côtés. Si tu t'en sers de façon négligente, tu peux payer le prix. On se rappelle de certains tweets des Canadiens l'an dernier. Ouais. On sait que l'équipe à Vegas est assez moderne et innovatrice dans le cadre de ses utilisations de médias sociaux. On a vu l'effet du tweet du GM des Rockets de Houston qui a parti quasiment une guerre socio-économique entre la NBA et la Chine récemment. Puis on a vu encore une fois l'effet sur un GM ou un coach ou avec les Canadiens en termes de l'avenir de ces gens-là. Puis on a vu aussi le tweet du joueur de hockey qui a mis Bill Peters dans le pétrin, puis soudainement Mike Babcock aussi, puis là soudainement Mark Crawford, puis tout ça sort de tweets ou de commentaires rapides sur les médias sociaux. Donc, la réponse est influence majeure sur les équipes professionnelles.
Donc, avant ça, les médias traditionnels, quelques chroniqueurs avaient beaucoup d'impact sur une organisation. Maintenant, c'est multiplié, voire même exponentiel quand la vapeur arrive de la part des fans. Ça se rend rapidement jusqu'en haut.
Oui, parce que les fans, maintenant, ils ont leur propre plateforme, finalement, en quelque sorte. Même s'ils ont une responsabilité, tu sais que les fans peuvent écrire n'importe quoi, puis ça peut changer les tendances, mais influencer les gens. C'est pour ça que le mot « influenceur » est encore plus utilisé aujourd'hui que jamais. Tu sais, Réjean Tremblay, à l'époque, lorsqu'il parlait des Canadiens, il fallait attendre le lendemain pour le lire dans la presse, ou ainsi de suite. Puis là, il y avait une certaine influence, mais là, ça avait une portée limitée. Aujourd'hui, c'est instantané. Puis tout le monde est un peu à la course folle pour avoir un peu la dernière nouvelle. Puis parfois, ils sortent ça sans voir nécessairement tous les faits ou toutes les informations. Donc, il y a des conséquences négatives. Il faut être très prudent dans l'utilisation des médias sociaux dans le sport.
Monsieur Lalonde, merci beaucoup.
Ça fait plaisir, messieurs. Bonne journée à vous autres.
Merci. Bonne journée aussi. Ray Lalonde, qui a occupé le siège de responsable du marketing et tout ça chez le Canadien de Montréal pendant plusieurs années. Donc, il connaît extrêmement bien ça, au-delà de 30 ans dans le monde du sport. Intéressant de voir son point de vue, parce que comme partisan, comme média dans notre cas, on voit pas tout ça.
Non.
Tu sais, moi, comme gars du Saguenay, j'ai toujours eu l'impression que c'était... fallait payer le prix maximal pour aller au Centre Bell parce que c'était comme ça, offre et demande, qu'il n'y avait pas de place de disponible. Pourtant, ça fait des années, selon ce qu'il nous dit, qu'il y en a des places disponibles.
Il y a deux ans, on avait vu un petit soubresaut avec justement StubHub, des billets à 9 $, là. Mais c'est encore ça pour nous au début de l'année. Ben, début, le quart de l'année.
Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, demain soir, visite de Samuel Girard au Centre Bell d'Avalanche du Colorado, c'est possible, y aller pas cher, pas cher. Ça se fait.